allons donc ouvrir ce conseil municipal du 20 octobre 2017. Je vais commencer, comme d'habitude, par procéder à l'appel. Monsieur Olivier Bonduel, Madame Marie-France Martin-Bagard, Monsieur Marc Lorouzic est absent. Pouvoir à Monsieur Olivier Bonduel. Madame Christine Lamandé, Monsieur Jean-Yves de Ripper, Madame Janine Le Golvan, Madame Françoise Le Pennec est absente, Monsieur Charles Bietri, Madame Marie-Yvonne Belleil, présente. Oui. Monsieur Philippe Audot, Madame Catherine Isoard, Monsieur Patrick Lotaudé, Madame Christine Desjardins, Monsieur Michel Durand. Madame Morgane Petit vient juste de s'excuser par SMS, elle a un empêchement, il ne pourra pas être parmi nous. Monsieur Gérard Marc-Albert, Madame Karine Le Dévéat a donné un pouvoir à Monsieur Michel Durand, Monsieur Hervé Le Donnant a donné un pouvoir à Olivier Lepic, et Madame Monique Thomas est absente. Monsieur Jean-Luc Servet, présent. Madame Nadine Rouet, présent. Monsieur Pascal Lejean, Madame Armelle Moreau, présent. Monsieur Loïc Oudois, Madame Sylvie Robineau, présent. Monsieur Paul Chapelle, présent. Et Olivier Lepic présent également. Nous avons donc le quorum pour pouvoir délibérer. La Benjamine étant absente, nous devons désigner un ou une secrétaire de séance. Christine, on va dire que tu es la Benjamine, si tu... Si... tu es donc secrétaire de séance. Félicitations. On va donc passer donc maintenant à l'ordre du jour de ce conseil municipal, à savoir l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22 décembre 2017. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce procès-verbal ? Pas de questions, il est donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons ensuite, comme d'habitude et comme à chaque conseil, au compte-rendu des décisions du maire, qui sont numérotées de 137 à 144, et que vous trouvez donc, excusez-moi, dans le bordereau. J'imagine qu'il y a peut-être des demandes de questions ou des précisions sur ces décisions du maire. Monsieur de Ripper.
La décision 142,
oui.
Qui concerne l'attribution des concessions sur le cordon dunaire.
Enfin, c'est la mission à l'assistance d'ouvrage sur l'obtention de la concession des plages. Voilà.
À ce sujet-là, je vous ai demandé quelle instance déciderait de l'attribution de ces concessions. Ça passera en commission, comment ça va fonctionner ?
Oui, ça passera en commission. Contrairement à l'État qui ne respecte pas ses règles, il y aura une procédure d'appel d'offres qui sera validée en commission et éventuellement même en conseil municipal.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions du maire ? Pas d'autres questions. On peut passer donc, j'allais dire, au plat de résistance de ce conseil municipal et le plat de résistance aussi de ce mandat, puisque, vous le savez, l'aménagement du boulevard de la plage est un des projets majeurs de cette mandature et de cette majorité municipale. Majeur, évidemment, compte tenu du caractère éminemment stratégique du boulevard de la plage et globalement de notre front de mer, qui évidemment participe beaucoup à l'attractivité de la commune. Plat de résistance également en raison de l'ampleur du chantier, de son coût. Il s'agit effectivement d'un investissement important. Encore une fois, et je l'ai répété à plusieurs reprises, nous n'avons pas les moyens de rater ce projet. Je pense qu'on y a tous beaucoup travaillé, et Paul qui le pilote en premier. Ce projet a déjà fait l'objet de plusieurs présentations, notamment en réunion publique, en commission. Il a été également réévoqué lors d'un certain nombre de réunions de quartier, notamment celle du Bourg il y a quelques jours à peine. L'accueil, à la fois en réunion publique et parmi nos concitoyens, est plutôt positif, voire même très positif pour l'instant. Alors, il y a beaucoup de remarques. Je reçois aussi beaucoup de courriers, je reçois des Carnacois en mairie le samedi matin assez souvent, et notamment des riverains qui d'ailleurs c'est assez intéressant, viennent souvent avec des commentaires, des propositions, puisque depuis quelque temps, vous le savez, le projet est disponible sur le site internet de la commune, et beaucoup de Carnacois sont allés sur ce site et viennent donc soit sous forme de longues lettres ou même de discussions avec le maire, faire un certain nombre de propositions. Et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont été entérinées suite à des discussions, parce qu'on a vraiment eu des propositions assez intéressantes. Et donc, on continue d'alimenter le projet. Et d'ailleurs, enfin, le projet qu'on va vous montrez aujourd'hui est un projet qui est certes quasiment fixé, mais il sera amené à évoluer toujours dans les détails, et notamment l'aménagement précis de ce boulevard de la plage, qui, je le rappelle, fait un petit peu plus d'un kilomètre 7, entre un kilomètre 7 et un kilomètre 8, et qui sont, voilà, encore une fois, et tout le monde y est très attaché, parce que c'est un lieu emblématique très important dans la vie de la commune. Donc il s'agit effectivement, que tous, y compris au sein du conseil municipal, nous sentions à l'aise avec l'approche qui a été choisie par la municipalité. Encore une fois, il ne s'agit pas de bouleverser ce lieu. On a la chance d'avoir une commune qui a été très préservée par rapport à d'autres stations balnéaires de la façade atlantique. Et donc, ce boulevard de la plage, il est déjà très beau aujourd'hui. Il s'agit donc simplement de le toiletter et de lui redonner peut-être un cachet et un chic qu'il n'a jamais perdu, mais en tout cas qu'il faudrait peut-être rehausser. Et c'est évidemment un esprit de respect du site, d'utilisation de matières nobles, la pierre, le bois. C'est aussi peut-être moins de place à la voiture, beaucoup plus de place aux circulations douces. Et c'est dans cet esprit que ce projet qui va être réalisé en cours de deux hivers a été conçu. Et encore une fois, il est très important que nous puissions débattre de ce projet. Et pour cette raison, Paul répondra à toutes vos questions, puisqu'encore une fois, c'est lui qui est en charge du pilotage de ce projet. Mais il y a également Pascal pour les aspects financiers, et puis d'autres adjoints pour les aspects peut-être sportifs, d'aménagement, puisqu'on en a tous parlé. Mais dans un premier temps, je vous propose d'assister à la présentation des deux personnes qui ont, j'imagine que dans le cabinet, il y a d'autres personnes qui ont travaillé, mais M. Maréchal et Mme Chabat qui font partie du cabinet Phytolab, qui a été retenu pour l'étude de ce magnifique projet. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter M. Maréchal et Mme Chabat pendant une petite demi-heure pour nous exposer les grandes lignes de ce projet de rénovation et d'aménagement du boulevard de la plage. M. Maréchal,
très bien.
La scène est à vous.
Donc, bonsoir à tout le monde, enfin ceux que je n'ai pas salués. Comme le disait Monsieur le maire, donc je m'appelle Loïc Maréchal, je dirige une agence qui s'appelle Phytolab, qui est une agence de paysagistes, qui est basée à Nantes, qui regroupe une vingtaine de collaborateurs. Nous travaillons principalement sur des espaces publics et beaucoup sur des rivages maritimes et fluviaux. Voilà. Donc on est vraiment très... très très content de travailler sur ce très très beau sujet. Pour ce faire, on est associé à un bureau d'études techniques qui s'appelle Artelia, qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure, réseau, dimensionnement des chaussées, etc., enfin de tous les aspects techniques. Donc là, on a prévu une présentation de l'ensemble du projet sur une 30 minutes. Je vais peut-être passer quelques diapos assez vite de façon à respecter ce temps et puis laisser un peu de place à l'échange. Photo d'ensemble, je n'insiste pas, vous connaissez bien mieux que moi. On a, dans le cadre de notre travail, on a fait un peu une recherche historique, comme on le fait à chaque fois. Puis là, je voulais traduire cette recherche par quelques photographies aériennes. Là, on est en 1947. On voit la partie ouest de la baie. Et puis, la base nautique, à ce moment-là, n'est pas construite encore. Hein. Il y a eu pas mal de changements dans ce secteur-là. On voit la chaussée d'hébernage, tout ça a beaucoup évolué là, en plusieurs dizaines d'années. Voilà la pointe Churchill ici à la même époque. Beaucoup d'arbres dans les propriétés privées aussi à cette époque. Quelques photographies, cartes postales de la plage de différentes époques, aujourd'hui et hier, avec une plage qui a toujours été finalement assez active, avec des clubs de plage, etc., des morceaux de jardin en face des hôtels historiques. Voilà, on est en 1967. Et la base nautique est en travaux ici. Voilà, enfin, c'est ce qu'on lit sur la photo. D'autres photos, celle-ci, je l'aime beaucoup. Là, de Port-Andreau, là, vraiment tel que c'était un peu à l'initiale, avec un seul pont. Et puis à droite, la photo de l'actuel. Voilà. Présence de la voiture hein, est quand même pas récente. On voit ici sur cette diapositive. Et puis les ambiances un peu de voirie, beaucoup plus rustiques. Finalement, que ça ne l'est aujourd'hui. Voilà, le projet d'aménagement donc part de l'avenue de l'Atlantique pour aller jusqu'à la pointe Churchill, ce qui fait environ 1,8 km. On distingue, bon, je dirais comme à l'existant, deux grandes parties quand même. Une partie à l'ouest, près de l'avenue Mine, l'avenue de l'Atlantique, qui est très active. Hein, et donc le projet d'aménagement tient compte de cet aspect-là. Et puis une partie est, qui est beaucoup plus naturelle, un peu moins fréquentée aujourd'hui. Et donc, cette complémentarité de ces deux espaces est bien entendu conservée dans le projet d'aménagement, qu'on souhaite être un projet discret, dont l'objectif est de valoriser la qualité des lieux, parce que c'est un endroit absolument magnifique. Il ne s'agit pas pour nous d'en rajouter, de faire des tonnes de choses, mais de proposer un aménagement assez simple, qui soit pérenne et qui révèle la qualité intrinsèque de ces espaces qui sont absolument magnifiques. D'abord, je voulais présenter un peu ce qu'on appelle le profil type, c'est-à-dire un peu le principe d'aménagement du boulevard en lui-même. Voilà une photo de l'existant, donc avec cette fameuse bande cycle entre stationnement et trottoir, là, qui est un peu une originalité carnacoise, parce que j'en entends beaucoup parler avec les gens avec qui je discute et qui connaissent la ville. Et puis le stationnement côté mer, le trottoir rouge que vous connaissez. Alors, si on résume ce profil existant, donc à gauche la terre, à droite la mer, on a un petit trottoir de largeur variable, mais de l'ordre d'1,50 m, une bande cycle du stationnement, la chaussée à sens unique, et puis le stationnement côté plage. Et le profil de principe qu'on propose est résumé dans cette diapositive. C'est la conservation du trottoir actuel. Parfois, on l'élargit un petit peu parce qu'il est très étroit à certains endroits, mais en gros, la conservation de la géométrie actuelle. Le positionnement du stationnement en épi plutôt côté façade, de façon à libérer complètement la partie océan qui sera plutôt vouée à la promenade, avec des stationnements en épi qu'on essaye de faire assez confortables, c'est-à-dire on les a un petit peu surdimensionnés par rapport aux normes actuelles, de façon à ce qu'on se gare facilement, on ait un peu de place, on n'encombre pas la circulation sur le boulevard. La voirie, ici, de 3,50 m, là, ce qui est une voirie à sens unique un peu plus pincée qu'aujourd'hui, parce qu'en réalité, elle est quand même assez large pour une circulation apaisée. Et ce principe-là nous permet de nous dégager une promenade piéton-vélo qui varie entre 6,50 m et 7 m, hein, alors qu'aujourd'hui, on a un trottoir qui fait 2,45 m environ. Donc, on reste dans le profil des environ 17 m qui existent de la partie du boulevard aménagé, pour en modifiant ce profil-là, et on donne beaucoup de place aux piétons et aux vélos. Avec la conservation du petit muret, sur lequel on s'est posé beaucoup de questions au début quand on ne connaissait pas l'origine, la fonction, etc., la délimitation du domaine public maritime, mais parfois ça ne marche pas, mais il a quand même un intérêt de proposer une limite aux espaces, de pouvoir s'asseoir, etc., éventuellement marcher dessus pour les enfants qui sont plus petits. Donc on le conserve dans sa géométrie actuelle, on propose tout au long quand même de rendre un peu plus confortable les assises avec des petits éléments en bois qui viennent dessus. Donc ça, c'est le profil, j'irais, de principe, mais qui a des variations sur l'ensemble du projet. Donc, le projet d'ouest en est, ici, donc, on est au carrefour de l'avenue de l'Atlantique et du boulevard de la plage, donc avec un carrefour qui est très routier, avec un tourne à gauche, etc., donc des traversées de piétons qui sont quand même pas aisées quand il y a du monde, pour aller dans le secteur notamment des sanitaires, mais aussi la chaussée, etc. Et un point particulier de ce secteur-là, c'est la question de la brèche que vous connaissez certainement, donc avec ici à l'ouest la possibilité, au moins théorique, d'entrée des eaux par submersion. Donc on doit répondre à cette problématique ici dans cette partie du projet. Et donc Artelia, qui est notre bureau d'études techniques, a également travaillé, parce qu'ils ont un service d'ingénierie maritime, ont également travaillé sur ce sujet de brèche. Et ils ont proposé, là c'est un profil très technique, un profil de principe par des enrochements enfouis en haute plage, là au droit du stationnement actuel, et la réalisation d'un mur qui permet de garantir une cote altimétrique qui est définie par les services de l'État, qui en l'occurrence est 5,80 m sur une longueur d'un peu plus de 100 mètres. Mais cette coupe-là nous paraissait quand même assez dure, c'est-à-dire c'est un mur quoi face à la plage. Donc on a essayé de transformer cette contrainte-là plutôt en avantage en proposant un profil de principe qui est celui-ci, c'est-à-dire au lieu de proposer un mur droit et une rupture entre plage et espace public, d'essayer de trouver un dispositif de gradinage qui permette de s'asseoir côté plage, mais aussi côté terre, de façon à ce que cette contrainte-là puisse avoir une fonction et se retourne à l'avantage du projet. On va le voir un peu plus en détail ensuite. Donc là, on est au droit justement de cette brèche calculée et on a en dessous la coupe donc de la voirie que j'ai décrite un peu. Dans cette coupe-là, il n'y a pas de stationnement en épi côté mer puisqu'on a l'esplanade ici de stationnement qui est au début du projet. Et la proposition est dessinée ici. Elle consiste à transformer ce stationnement qu'on prend quand même un peu en pleine figure quand on arrive et on découvre ces espaces-là, de le transformer plutôt en esplanade piétonne, une grande esplanade donc multifonction pour des animations du 14 juillet, des différents concerts qu'il peut y avoir ou de toute autre animation, en une grande promenade donc élargie ici puisqu'on est presque à 15 mètres de large et avec ce dispositif de protection contre la submersion qui forme gradin. Voilà. Voilà quelques vues ici au niveau du carrefour. Donc ça, c'est une vue qui est très importante parce que pour beaucoup, c'est la vue de découverte de la grande plage hein, quand on vient du bourg, enfin en tout cas du nord. Voilà, avec une vue quand même assez encombrée. Alors pour l'instant, on n'a pas résolu tous les problèmes hein, de panneaux, de détails, etc. Mais on souhaite travailler dans une optique de libération le plus possible des vues. Voilà d'autres photos. Et voilà un plan de la proposition sur ce carrefour-là, avec donc les deux ponts qui existent, et une réduction principalement de la largeur de la chaussée au bout de l'avenue de l'Atlantique, tout en gardant le tourne à gauche, enfin les deux voies au carrefour, de façon à éviter un peu que ça s'accumule. Mais ça nous permet d'élargir quand même sensiblement le trottoir ici, sur lequel on peut faire circuler des vélos, et qui pourrait se poursuivre d'ailleurs sur ultérieurement sur l'avenue de l'Atlantique, pour faire un beau lien de doux entre le bourg et la plage. Le traitement aussi d'un plateau ici, je vais reparler de matériaux ensuite, un peu surélevé, qui permet de redonner toutes les transversalités piétonnes entre le port Andreau et la plage, d'apaiser aussi la circulation, c'est un point important. Et on retrouve, je dirais aujourd'hui, toutes les fonctions qu'il y a du petit train, etc. Un travail d'amélioration de cet espace-là, qui est quand même un peu en friche aujourd'hui, avec des garde-corps vieillissants, etc., donc qui sont rénovés. Et on voit ici un espace aujourd'hui qui est un peu stationné, avec le sanitaire qui est conservé, mais qui peut être réhabillé, parce qu'aujourd'hui, la façade est quand même vétuste. L'intérieur n'a pas été rénové de celui-là, contrairement à d'autres sanitaires. Aujourd'hui, on n'a d'ailleurs pas prévu d'accessibilité PMR à ce sanitaire, mais on y travaille, voir la faisabilité, parce qu'il est en creux d'1,20 m, ça fait des rampes quand même assez importantes, mais on a encore un travail à mener là-dessus. La possibilité de retrouver des conteneurs enterrés dans cet espace-là, et puis de déposes, bus, etc., pour les différentes fonctions qu'on a déjà aujourd'hui. Sur la droite du plan, on voit dessous ce que vous voyez en gris, en fait, c'est l'existant. On lit les petits traits du stationnement, mais cet existant-là, vous voyez, on réduit la largeur de la chaussée, on le voit bien ici, et on offre une grande esplanade sur laquelle se déroulent ces gradins, je dirais, un peu imposés par les problématiques de submersion. Voilà un plan de cette esplanade, donc qui est le départ finalement, enfin le départ ou l'arrivée d'une grande promenade sur le boulevard. Voilà quelques images informatiques de ce que ça peut donner. Alors, c'est un peu dur parce que c'est de l'informatique, hein, mais on voit quand même l'organisation des espaces, le trottoir, le stationnement. En l'occurrence, ici, on a des stationnements moto à proximité, la voirie, et puis cet espace piéton qui devient vraiment une forme de place, en fait, ouvert sur la mer. Voilà une vue dans l'autre sens. On voit ce dispositif de protection sur lequel, évidemment, on peut s'asseoir et qui vient trouver un peu une extension ici de façon à proposer des assises. Et on vient se caler ici sur le petit groupe d'arbres existants qui est conservé. Voilà donc la vue de l'existant et puis la vue du projet. Alors, quand on fait vue de l'existant, il fait pas beau, etc. Vue du projet, il fait très beau, mais c'est... voilà. Donc, hors de blague, on voit bien un peu la transformation de ces espaces-là. J'en profite d'ailleurs pour parler d'un point particulier qu'on a vu dans le profil, mais que je n'ai pas exposé, c'est la question de l'éclairage. Aujourd'hui, on a des grands mâts assez routiers qui sont plutôt côté mer, et on souhaite mettre des mâts de beaucoup plus petite dimension, beaucoup plus discret, avec un éclairage tout à fait satisfaisant, mais plutôt côté des maisons, en calant bien par rapport aux vues des riverains, évidemment c'est important, mais du coup ça libère aussi, ça participe à la libération de la vue, et à la fois pour les promeneurs et aussi pour les riverains. Voilà, c'est quelques images, un autre point de vue ici, où on va commencer à démarrer un platelage bois qui va se poursuivre sur une certaine longueur, à peu près la moitié de la plage. Ici, espace très important qui est celui de l'avenue Mines, puisque bon, c'est un lieu commercial important, avec des très grandes transversalités d'ailleurs, beaucoup de piétons, beaucoup de vélos, pas mal de voitures. On a fait un tout petit film d'ailleurs en accéléré aux vacances de Pâques dernières, qu'on peut regarder, ça dure une minute, mais c'est intéressant de voir toujours le... Donc... Voilà, ça c'est donc il y a quand même du monde là, ces vacances de Pâques, il fait beau, on voit le petit train qui arrive, les piétons qui traversent, les vélos, et dans le dimensionnement des espaces, on tient compte un peu de cette importance des flux entre les différents modes de déplacement. Voilà. Donc hop, là ça repart, tac, tout le monde va à la plage, etc. Bon, je pense qu'on peut couper. Voilà. Ouais. Non mais bon, évidemment c'est en accéléré, mais on voit bien tous les piétons qui traversent vers le... Et donc on souhaite renforcer la lisibilité, je dirais, de cette profondeur vers les espaces, je dirais, d'animation et de commerce de l'avenue Mines, en traitant ici un plateau assez vaste et une très belle entrée, enfin en tout cas on l'espère, vers la plage. Donc là les jeux sont à cette époque-là, on a fait des photos en drone et les jeux sont en train de se monter là. Voilà une image de ce que ça pourrait donner. On lit un peu à gauche la fin de l'esplanade. Ici, on arrive à loger toute une série d'appuis vélos. Là, on propose de doubler la capacité de pour les vélos, parce que avec cette grande circulation piéton-vélo qu'on va proposer, on pense, et d'ailleurs on sait plus exactement des expériences qu'on a sur des projets un peu comparables, qu'on va avoir beaucoup plus de monde à venir, soit à pied, soit en vélo. Et je pourrais, si vous souhaitez, vous citer quelques exemples de projets. Voilà la forme d'une esplanade ici, avec les matériaux du trottoir, un plateau pour ralentir les voitures, et puis ici, une articulation du platelage bois qui vient qui commence depuis l'esplanade, et puis qui vient ici, qui passe au nord. Alors, est-ce qu'il va passer, d'ailleurs, on travaille encore, est-ce qu'il passe au nord, est-ce qu'il passe au sud? Bon, voilà, il y a des calages un peu à faire entre les différents modes, l'espace commercial du Fischer, l'épaisseur de la dune. Donc, il y a encore des calages à faire, notamment à ce propos. Voilà un petit zoom ici. On est en train d'organiser tout ce qui est poubelle, parce qu'il y a une quantité très importante à tous les accès de poubelles. D'ailleurs, je pense que ça ne sert pas qu'aux gens qui vont à la plage. Il doit y avoir une pratique un peu de ramassage collectif, en fait, ici. Donc, il y a des poubelles assez importantes. On les distingue pas ici, mais l'idée, c'est de les fondre dans le platelage, d'avoir des émergences, de proposer des bancs qui limite la circulation automobile, qui donne du confort, et d'avoir un dispositif d'éclairage particulier qui regroupe caméras, etc., tous les éléments qu'il y a aujourd'hui et qui sont un peu accumulés au fil du temps. Voilà. Voilà en plan ce que ça peut donner. On sort de l'avenue Mines, un petit croquis un peu d'ambiance qu'on souhaite avoir. Voilà ici un autre espace avec... les vélos qui prennent plus de place, des espaces beaucoup plus généreux pour les modes doux, et la possibilité sur ces espaces-là de mettre des petites activités saisonnières, ou pas, mais bon, qui sont offertes en rive de ce platelage qui ouvre sur la plage. On enchaîne donc ici au droit de l'allée des menhirs, qui est une voie importante aussi, parce qu'elle est en sens rentrant vers l'intérieur, donc elle est quand même assez circulée, c'est un carrefour important. Et puis on voit le début là de ces grands espaces en gazon. Voilà le plan qui est proposé ici, donc toujours ce profil qui se poursuit ici, avec un traitement particulier à chaque transversalité, ici l'allée des menhirs, donc toujours principe plateau. À chaque accès sont offerts donc informations, on y travaille sur d'ailleurs l'insertion de ce type d'informations, appui vélo, corbeille, etc., qui sont mis en nombre en fonction de l'intensité un peu des accès qui peut y avoir. On a prévu de supprimer un des deux accès. Alors, ici, c'est celui-ci qui est supprimé, mais en fait, on va plutôt peut-être supprimer celui-là. Parce que là, c'est un peu redondant, et puis donc on est dans une idée quand même de protection un peu de la dune. Le sanitaire qui est ici donc est conservé. Et le voilà justement. Donc on propose, ils sont un peu d'aspect vieillot, on va dire, un peu ces sanitaires, mais ils ont l'avantage quand même d'être encaissés. Et c'est, je dirais, pour la vue, c'est pas mal. Pour l'accessibilité, c'est moins bien. Et là, on propose de retraiter un habillage plutôt en bois, assez simple. Dans l'idée ça pourrait être comparé à un projet qu'on a fait à la Couarde-sur-Mer, à l'île de Ré, voilà quelques années. Donc ça, c'était l'accès à la plage principale de la Couarde. Et donc là, il y a un poste de secours et puis un local SNSM qu'on a agrandi pour offrir des sanitaires et qu'on a habillé en bois, vous voyez, avec la dune qui passe par-dessus. Donc c'est cette idée d'avoir des choses assez, assez simples et discrètes. On continue. Donc ici, au niveau de l'allée des alignements, il y a ce grand espace en gazon avec soutenu par des murets qui permet d'ailleurs d'offrir une belle vue sur l'océan, parce que parfois ça manque un peu avec la hauteur de la dune qui pousse un peu. Et c'est tant mieux d'ailleurs, une dune qui pousse, c'est mieux qu'une dune qui s'en va. Et voilà le plan qui est proposé. Donc sans bouleversement l'organisation actuelle, une circulation en platelage bois qui est en partie basse ici, de façon à donner beaucoup de confort à cette promenade qui va être très agréable. On pourrait citer en référence plusieurs projets qu'on connaît où ça marche très très bien, c'est très attractif. Et puis un espace ici qui est revalorisé, un peu simplifié, avec des points particuliers d'assises ici qui cadrent la vue, où on propose d'avoir un dispositif de banc un peu transat. Là, on va le voir un peu en détail à la fin avec une pergola. Bon, voilà, c'est peut-être susceptible d'évoluer un petit peu, mais c'est cette idée-là de cadrer la vue, d'offrir un élément particulier. Les nivellements généraux sont conservés. Et puis, on a de part et d'autre aussi des espaces qui pourraient accueillir des équipements spécifiques saisonniers également ou des manifestations qui pourraient avoir lieu. Voilà, on continue. On y est toujours. Là, c'est la coupe. Alors, les coupes, c'est un peu parfois difficile à comprendre, là, mais c'est souvent ce qui montre aussi très, très bien les projets. La coupe de l'existant et puis une coupe projet. Donc, même principe de travail sur la voie. Ici, la promenade est un peu plus large qu'avant. Elle est à 6,80 m, si je lis bien. Et puis un grand espace en gazon, et puis ce principe-là localisé de cadrage de vue, d'assises qui sont offertes. Et le platelage bois en promenade est en dessous du mur, là on voit comme à l'actuel où la promenade est un peu encaissée. Au niveau du poste de secours, là qu'on voit ici, donc amélioration aussi de l'existant, mais sans bouleversement là encore, avec un profil de voie qui change ponctuellement, puisque la voie vient passer ici et comme ça, pour proposer ici du stationnement côté promenade et avec un équipement de place pour les personnes à mobilité réduite un peu renforcé, compte tenu des services qui sont offerts sur ce poste de secours qui vient se positionner sur un platelage bois. Alors aujourd'hui, la ville loue des Algeco un peu à l'année qui sont positionnés. On discute avec les services de peut-être trouver un dispositif un peu identique, amovible, mais qui soit esthétiquement un peu... Ouais, voilà. Donc nous, on a quelques références qu'on a pu montrer, voilà, sur des choses qui restent très simples, amovibles, mais qui sont plutôt habillées en bois, puis qui sont remis un peu au goût du jour, si je puis dire. Donc la promenade piéton-vélo, sur laquelle il y a une question d'ailleurs de répartition entre vélo et piéton, dont on pourra discuter de ça. Nous, on est plutôt pour oui. Ouais. Oui, c'est vrai, nous, on propose d'avoir un matériau unique, là, qui sera un béton, et on propose d'avoir le même béton que dans le centre-ville dans le centre-bourg de Carnac, de façon à aussi avoir un élément un peu d'unité sur cet ensemble-là, donc une couleur un peu sable, voilà, avec des granulats de granit. Et l'idée de trouver un marquage pour positionner plutôt le vélo côté terre et plutôt le piéton côté mer, mais sans avoir de différenciation de matériaux, de différenciation forte, parce qu'on pense souvent au début que c'est une bonne idée, qu'on va être plus en sécurité, voilà, parce que le vélo sera là, et en fait on s'aperçoit que quand on sépare comme ça fortement les flux, les vélos roulent très vite, ils sont chez eux, ils klaxonnent quand il y a un piéton qui déborde un peu, et du coup ça nuit beaucoup aussi aux transversalités piétonne. Et donc il s'agit de trouver le bon équilibre entre pour limiter tous les conflits d'usage entre piétons et vélos. Nous, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé dans différents projets. Et donc là, on propose le même matériau et peut-être des petits logos au sol qui montrent le vélo, c'est plutôt de ce côté-là, le piéton, c'est plutôt de ce côté-là. Mais un vélo qui circule à 8 heures du matin un dimanche d'hiver parce qu'il se promène, il n'y a personne, il va avoir tendance à rouler plutôt côté mer. Mais quand il y a du monde, il suit plutôt les indications qui sont données au sol. Voilà, on continue ici donc la promenade. Allée de la montagne, donc rien de particulier, donc là cette grande promenade qui se déroule, le stationnement, voilà, qui réserve bien sûr les accès riverains automobiles qui sont représentés par des petits triangles rouges. Voilà, on continue. C'est qu'un kilomètre 8, ça faut marcher un peu quand même, là, voilà. Et on arrive à l'allée des Varecs, où il y a un point particulier, là aussi un sanitaire enterré, qui est aujourd'hui entouré d'une végétation assez horticole, qui détonne un peu avec l'ambiance du nerf. Et on propose de refaire cet accès, là, qui du coup est pour tous, pour les personnes à mobilité réduite, en proposant un point de vue. Ici, on pourrait monter sur le bâtiment, ici, qui n'est pas très haut, avec un petit escalier, un garde-corps, et offrir un beau point de vue sur la mer. Donc on voit là-bas, je pense que l'image parle d'elle-même. Et on commence un secteur particulier vers le parking de Churchill. Voilà les coupes. Je passe vite. Vous voyez, bon, l'existant, le sanitaire, hop, voilà. Et puis l'inclusion de cet espace, de ce sanitaire-là dans une végétation qui soit la poursuite de la dune. Voilà en plan, ce que ça peut donner. Et on arrive à la pointe, là, enfin au parking plus exactement de la pointe Churchill, où là aussi il y a une brèche potentielle, mais qui est moins, je dirais, qui peut être traitée avec un épaississement de la dune à terme, qui n'est pas, je dirais, moins urgent entre guillemets que la brèche ouest. Mais dans le projet, on souhaite quand même réserver la possibilité de faire ce renforcement quand il s'avérera nécessaire. Et on arrive à ce plan-là, donc qui est en fait la poursuite un peu, d'une certaine manière, du profil qu'on a avant, c'est-à-dire que ici, le long de la voie qui est à sens unique, où on a aujourd'hui un contresens vélo, on propose de supprimer ce contresens vélo et d'avoir du stationnement qui vient sur l'accotement, là, tout en réservant les arbres qui existent. Et le vélo, on lui propose, le piéton, une promenade qui est un peu plus réduite, mais il y a quand même un peu moins de monde là, vient ici, qui vient en site propre, en fait, en voie verte ici, et qui peut ensuite se raccorder sur l'existant. On pourrait imaginer, d'ailleurs, j'ai regardé un peu les profils de voies qui sont un peu différents, mais on pourrait imaginer que ce principe de voie verte se poursuive ensuite, plutôt que d'avoir un dispositif, je dirais, un peu routier, peut-être moins agréable que... Mais bon, on s'arrête là. Et on garde une partie du stationnement, qui est ici, avec un accès, du stationnement en épi, et puis une sortie par là. Ce qui fait que cette bande-là vient à la place du stationnement actuel, ici, mais qu'on restitue, là, pour le coup, le long de la voie, de manière, je dirais, en continuité du profil. Ici, il y a un travail sur le terrain des boulisses, si je puis dire, même si c'est sa fonction, en tout cas, la plus notable, avec peut-être un renforcement de la végétation le long des propriétés riveraines, de rendre cet espace-là un peu plus aimable. Mais là, pas de bouleversement, on travaille un peu sur le détail de cet espace-là en ce moment. Voilà une coupe, une photo et une coupe de l'existant. et une coupe de projet. C'est un peu petit, je vais passer. Et là, une coupe qui montre les principes de matériaux. Donc, si je commence par le trottoir ici, donc là, on a plusieurs variantes, un peu, soit on le garde en enrobé clair ou en béton. Il y a eu des échanges avec l'architecte des bâtiments de France à ce sujet-là. La voirie en enrobé, c'est-à-dire en goudron, très classique. Les bordures sont en granit. La promenade, ici, est principalement en béton. Donc, celui que j'évoquais, la dune, c'est de la dune. Et le platelage bois qui vient ici. Donc, grande simplicité dans les matériaux de traitement et puis une pérennité, je dirais, garantie de l'ensemble du dispositif. Voilà quelques éléments de référence, voilà des gradins. Voilà, on en voit là, mais enfin, tout le monde sait ce que c'est des gradins. Des éléments un peu de mobilier, voilà un peu dans quel esprit on travaille. Vous voyez, ça c'est l'idée sur le muret, d'avoir trouvé ponctuellement des assises qui soient un peu dans cette idée-là. Voilà, des bancs sur le muret aussi, on en trouve ici. Là, c'est un détail sur lequel on travaille en ce moment, justement, près de l'allée des alignements. C'est ce principe de pergola, vous voyez. Et là, donc, en l'occurrence, on a une partie un peu transat, en quelque sorte, et puis plutôt banc pour terminer. Voilà, l'idée, là, pour exemple, un peu du traitement des corbeilles, donc avec des couvercles, là, comme il y a évidemment du vent. L'idée de trouver des indications qui soient sobres, claires, un peu qualitatives et pérennes. Les appuis vélos, il y a plusieurs modèles possibles. L'éclairage, voilà, sur les éléments sur lesquels on est. Donc, l'éclairage serait avec ce type de lanterne, vous voyez, avec un mât, une petite flèche, qu'on trouve d'ailleurs, c'est un modèle qu'on trouve à la Trinité, quand on s'approche du pont là qui franchit. Donc, c'est des choses très discrètes. Au droit de l'avenue Mine, on peut avoir des mâts, ce qu'on appelle des mâts à aiguilles, avec une petite grappe de projecteurs qui permettent de cibler, de marquer un espace quand même particulier dans le boulevard. Et puis, à chaque accès, comme on a l'éclairage côté façade, à chaque accès, on trouve un petit mât dit cigarette, là, ou allumette, qui permet d'éclairer l'accès vers la plage de manière efficace, mais pas trop fort, de façon à ce qu'on ait... les directions qui soient données. Voilà. Plan plutôt technique. Ici, c'est un plan de phasage qu'on peut résumer de la manière suivante. Donc, le orange, donc toute la partie la plus urbaine, entre guillemets, entre septembre 2018 et juin 2019, hein, sur l'intersaison. Voilà. Le vert, bah, c'est l'intersaison d'après. Donc, septembre 2019, plutôt printemps 2020. Et puis le violet, on ne sait pas trop encore dans quel côté on le met, soit dans le vert, soit dans le orange, selon les éléments. Donc ce phasage-là, évidemment, il y a des sous-phasages qui seront réalisés dans les études qu'on est en train de mener, là, mais je ne voulais pas rentrer dans le détail des phasages, de façon à perturber le moins possible l'accessibilité des riverains et des commerces aussi qui sont dans cette partie-là. Donc quand les travaux s'étalent de septembre à juin, en juin, on n'est pas en train de casser toute la voirie, on est plutôt en train de faire des finitions, et les parties les plus contraignantes se jouent dans les périodes où il y a le moins de monde. Les estimations financières qui sont synthétisées ici, donc on voit très très bien, hein, voilà, on peut peut-être... Voilà. Donc le chiffrage qu'on a réalisé donc est à hauteur de pour les travaux d'aménagement de 4,4 millions hors taxes, auxquels on a ajouté un certain nombre d'options en plus ou en moins-value, notamment concernant les matériaux du trottoir côté façade, où là soit on a enrobé grenaillé, c'est un petit peu plus cher, en enrobé beige aussi un peu plus cher, ou en béton là pour répondre un peu aux demandes de l'architecte des bâtiments de France pour avoir limiter le nombre de matériaux, et puis autrement on a des petites options qui sont d'habillage de coffrets en bois qui sont liées aux arrivées de réseau pour des activités potentielles là, pour pas qu'il y ait des émergences disgracieuses, et puis une option aussi sur du nombre d'appuis vélos, voilà, bon, enfin qui sont des options relativement mineures au regard du budget total.
Merci Monsieur Maréchal. Je pense qu'on peut profiter, les conseillers municipaux peuvent profiter de la présence de Monsieur Maréchal et Madame Chabat pour peut-être poser des questions, demander des précisions, puisqu'on a la chance d'avoir les hommes de l'art et encore une fois des spécialistes de l'aménagement balnéaire, parce qu'il y a d'autres projets qui ont été menés sur le littoral atlantique. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Enfin, soit Monsieur Bonduel.
C'est-à-dire qu'on ne pensait pas avoir le cabinet avec nous ce soir. Donc on a... Voilà. J'ai un petit préambule avant. C'est pas une question, c'est... Non, mais il y a des questions qui vont venir après. Il y a 10 questions qui viennent après, qui sont à destination du cabinet. Mais je voudrais faire un petit préambule, si c'est possible. Monsieur le maire et chers collègues, nous avons eu le jeudi dernier 12 une réunion réunissant différentes commissions, toutes concernées par le projet de réaménagement du boulevard de la plage. Enfin, une réunion où nous allions pouvoir débattre sur la base d'un avant-projet des choix techniques proposés par Phytolab et Artelia. Que nenni ! De toute évidence, nous étions convoqués pour une présentation globale et rapide de ce futur investissement structurant et lourd financièrement, sans qu'on puisse imaginer une seconde avoir la possibilité d'y apporter un correctif. La présentation nous rappelant à chaque remarque que les détails avaient été présentés en réunion publique et qu'il y avait été dommage que nous n'y soyons pas venus, nous, les vulgum pecus élus. Nous sommes d'accord avec vous, Monsieur le maire, c'est un dossier structurant pour notre commune. C'est une expression que vous avez employée, il est temps maintenant de s'y atteler avec énergie. Cependant, nous aurions voulu, avant d'aboutir à la phase définitive et irréversible, faire réfléchir les cabinets d'études sur certains aspects du dossier et d'être sûr que les choix techniques proposés soient bien les bons. À savoir, petit 1, je ne sais pas si le cabinet nous écoute. Si. Parce que nous sommes le groupe d'opposition en face de vous, là. Il y a deux groupes d'opposition, mais ce petit laïus, là, est une rédaction commune. Voilà. Au-delà du poste de secours, je ne sais pas si on pourrait peut-être... Non. Au-delà du poste de secours, nous préconisons l'emplacement des parkings vers la pointe Churchill en continuation de ceux qui sont prévus pour celui-ci, c'est-à-dire côté plage, offrant pour les familles une ambiance sécuritaire meilleure. Les enfants quittant la voiture arriveront directement sur la voie partagée et sur la plage. Là, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Concernant les parkings côté trottoir, avant le poste de secours, le remplacement est assez logique, car on peut imaginer que le partage entre l'accès à la plage ou à l'avenue Mine est de 50-50. En revanche, dans les deux cas, les espaces entre l'arrière des voitures et la voie de circulation sera faible. Quid lors de l'ouverture des coffres. Point numéro 2. La suppression des chicanes, que nous comprenons bien, oblige la mise en place d'un autre moyen de réduction de la vitesse. Pourquoi alors, à chaque passage piéton, ne pas installer un dodane léger ? Petit point numéro 3. La voie partagée est une bonne idée. Nous souhaitons cependant que la matérialisation entre la surface dédiée aux piétons et celle pour les cyclistes offre plus de sécurité pour les deux catégories d'utilisateurs. Nous vous rappelons qu'en Hollande et en Allemagne, ce type de voie partagée est en recul suite à de nombreux accidents. En France, les grandes villes ne font plus ce choix. Point numéro 4. Nous pensons aussi que le cheminement bois ne nous paraît pas utile le long de la future esplanade ainsi qu'après l'avenue Mine. La surface bois à la sortie de celle-ci s'enfonce trop vers la mer et se dégradera rapidement par les assauts conjugués de l'eau et du sable. Une installation du cheminement bois un peu avant le Diana jusqu'à la sortie du poste de secours nous paraît suffisante et serait beaucoup moins coûteuse. Point numéro 5. Le belvédère à l'extrémité côté pointe Churchill est un luxe qui nous craignons ne servira pas à grand-chose. Petit 6. Le dossier de réaménagement du boulevard de la plage ne peut passer sous silence la place de la voiture. Dès lors qu'elle reste prévue dans le dispositif, elle deviendra une composante crispante pour ceux qui l'utiliseront. C'est où se garer ? Hélas, à cette question, vous ne proposez rien au risque de voir les voies perpendiculaires au boulevard de la plage complètement engorgées, comme c'est le cas actuellement. Nous souhaitons qu'une réflexion parallèle à ce dossier soit engagée au plus vite. D'autre part, aucune place réservée pour les bus des touristes n'a été présentée. Petit 7. Qu'est-il prévu concernant le renforcement des ponts de Port-Andreau qui présentent des faiblesses endémiques provoquées par le ressac lors des marées à fort coefficient et conditions tempétueuses ? Petit 8. Vous endormez pas, non ? Non, je demandais si vous vous endormiez.
Non, c'est mon petit coup.
Petit 8. Vous faites également le choix de reporter une date ultérieure. Donc ça. Vous faites également le choix de reporter une date ultérieure les travaux de renforcement de la brèche Est, sacrifiant au touristo-marketo-esthétisme la sécurité de vos administrés. Le touristo-marketo-esthétisme. C'est à retenir. Alors qu'un dernier conseil en réponse à une question sur l'évolution hypothétique du PPRL, vous faisiez le chantre de toutes les solutions techniques qui permettent de gommer définitivement ce risque. Petit 9. À la lecture du document d'avant-projet, aucune mention n'est faite quant à la destination des aires dédiées aux restaurants plage ou aux aires de jeu. Alors, là, je vois qu'il y a effectivement placé sur les plans qui nous ont été présentés. On retrouve le restaurant plage et l'aire de jeu, alors que sur la réunion du 12 juin, on ne voyait pas grand-chose. Mais cet aspect insidieusement disparu de l'avant-projet avait, lors de la réunion publique, reçu un accueil pour le moins réprobateur, voire de forte opposition. On comprend mieux alors, à la lecture des décisions du maire, présentées ce jour au Conseil, qu'une prise en main directe vous économisera le temps de la contestation. Petit 10, enfin, je pense que c'est quand même le plus important. Enfin, pour terminer, en quel projet global de front de mer s'inscrit ce réaménagement ? Nous n'avons pas vu les raccords vers les autres plages de Le Genèse, de Tibian, de Saint-Colomban, ni celles de Beaumère et du Mendu, en accord avec la Trinité-sur-Mer. Et pas un mot sur le yacht club, tout aussi structurant pour notre commune. Enfin, nous souhaitons également, dans un contexte de forte remise en cause des financements locaux, de rester à des niveaux d'investissement raisonnables au regard de l'utilisation principalement estivale qui en sera faite. Et je laisse la parole à M. De Repère pour la partie budgétaire du dossier. Merci, M. le maire.
Vous préférez peut-être répondre sur le...
Effectivement, je pense que ça peut être une solution qui peut être retenue. Sur les séparations de circulation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le constat. Regardez ce qui a été fait avenue de la Gare à Auray, à Nantes, où ces solutions sont en train d'être adoptées. Donc l'espace partagé, au contraire, c'est quelque chose, il me semble, dans les aménagements urbains en France qui progresse. Pour ce qui concerne les problématiques de parking, nous n'avons pas attendu effectivement cette remarque là aussi très pertinente pour commencer à travailler sur ce dossier, et nous envisageons effectivement des parkings de délestage à proximité de la plage pour parer ou du moins limiter les effets de la diminution du nombre de places de parking. Pour ce qui concerne le port de Port-Andreau, on en a déjà parlé, nous envisageons donc un système de brise-lames pour casser les trains de houle qui rentrent dans le port. Pour le reste, écoutez, voilà, je pense qu'il y a des remarques qui sont intéressantes, d'autres qui le sont évidemment moins. Et puis pour le reste, je pense que c'est un investissement qui est structurant pour la commune. Ça représente peu ou prou 2 années d'autofinancement de la commune, compte tenu, je dirais, de l'importance du projet et du rôle de la grande plage dans l'attractivité de la commune. Ça me paraît être quelque chose de raisonnable. Certes, c'est une grosses sommes, hein, on en a bien conscience, hein, mais encore une fois, la commune, un, peut se le permettre, et deux, doit se le permettre, parce qu'on peut pas se permettre de faire un projet au rabais, surtout pas à cet endroit-là, donc il faut quelque chose de qualitatif, évidemment, on s'est penché sur des comparables qu'on évoquait. La Baule, c'est 7 ou 8 kilomètres, non, c'est ça? Et il y a un projet aussi de rénovation ?
Il y a des premières estimations, parce qu'il y a des premières réflexions, donc évidemment, c'est important.
Oui, j'imagine.
Donc là, les premières estimations sont à 45 millions d'euros.
D'accord. Donc au kilomètre, on est beaucoup moins cher que la Baule.
On a fait un petit exercice en matière de coût par rapport à la surface traitée, au budget. Donc on est sans compte en termes de surface aménagée, donc sans compter la dune, etc. On est à peu près à presque 5 hectares, donc, ce qui ramène à peu près 110 euros le mètre carré de traitement, ce qui est un coût très, très raisonnable.
D'accord.
Et des références qu'on a, c'est plutôt on a travaillé sur le fond de mer de Saint-Nazaire, donc une baie de 3 km et demi, là qu'on a fait en plusieurs tranches, donc avec des budgets beaucoup plus conséquents, on arrive à un budget total de l'ordre de 13 millions d'euros.
D'accord. Ok, alors autre point que j'ai noté, le belvédère, bah, écoutez, non, je ne pense pas que ce soit un luxe, hein, c'est pas très très cher. Encore une fois, je pense qu'il faut, du qualitatif, on est tous très attachés à la beauté de notre boulevard, et je pense que de notre boulevard de la plage, et donc je pense que des aménagements qualitatifs, là aussi, sont, pour ce qui concerne votre perception de la réception à la réaction des emplacements prépositionnés en réunion publique. Je n'ai pas du tout ressenti ça, mais bon, j'imagine que c'est de bonne guerre. Voilà, ce projet, on a bien conscience qu'il peut être encore amélioré. D'ailleurs, Monsieur Bonduel, un certain nombre de vos remarques seront prises en compte, et notamment pour la vitesse, parce que je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important de vos remarques. C'est quelque chose de très, très important, mais voilà, enfin, pour ce qui concerne la réunion, vous auriez pu aussi vous exprimer et faire ces mêmes remarques. Et d'ailleurs, vous avez parfaitement l'occasion ce soir de vous exprimer, comme vous le faites, de poser les questions, d'amender, de contester, de faire des propositions. C'est pas aucun souci. Monsieur de Ripin, sur les finances.
Sur l'aspect financier, oui, comme vous venez de le dire, l'investissement est quand même considérable. Et surtout, son montant a beaucoup évolué au cours du temps. C'est-à-dire qu'on a...
C'est normal. Ouais. Il va être encore amené à évoluer, d'ailleurs.
Vers le haut ?
Je ne sais pas. L'avenue Saint-Cornelis a été vers le bas, donc j'espère que ce sera vers le bas.
Parce que quand nous avons voté en novembre 2016, on a voté un budget prévisionnel qui était de l'ordre de 4 millions d'euros. Un petit peu plus de 4 millions d'euros. D'ailleurs, c'est le montant qui a été repris dans le débat d'orientation budgétaire 2017. 4 millions d'euros, c'est celui qui figure. Lors de la réunion publique, vous avez déclaré un chiffre qui était de 4,5 millions. Donc là, on avait déjà gagné 500 000 euros. À l'heure actuelle, on est sur une base de 5,325 millions. Et si on s'en tient, si on se réfère à la présentation très précise et très détaillée que nous a faite M. Lejean lors de la commission, on serait plus proche des 6,5 millions d'euros. Et si on intègre un certain nombre d'options et de travaux supplémentaires, on va tutoyer les 7 millions d'euros. Ça nous paraît quand même considérable et pas vraiment en rapport avec les besoins des habitants de Carnac.
Très bien, j'entends. Hein. Je pense que aujourd'hui, c'est votre opinion. Moi, je constate que c'est... Monsieur de Ripert, un jour, vous n'êtes pas carnacois, vous êtes venu habiter à Carnac et vous en avez fait votre habitation principale. J'imagine que le caractère balnéaire de la commune a quand même joué un rôle très important dans votre décision. Et c'est aussi une décision qui, pour les gens qui nous visitent, pour les touristes, qui font vivre les restaurants, les commerçants, les artisans, le caractère balnéaire de la commune est quand même, vous en conviendrez, absolument fondamental. C'est-à-dire que les gens viennent à Carnac... pas uniquement, bien sûr, parce qu'on a heureusement d'autres atouts, mais pour le caractère balnéaire, ces plages, le fait de se baigner. Sinon, ben, on resterait à la campagne, peut-être loin de la mer, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes. Donc, je trouve que dire que dépenser à peine 2 années d'autofinancement dans un projet aussi emblématique que notre boulevard de la plage, ça me paraît au contraire, et je pense que, pour rebondir sur les remarques du cabinet Phytolab qui a évoqué d'autres projets, je pense que Carnac vaut largement Saint-Nazaire, vaut largement La Baule. Je pense même que nous avons un front de mer qui est incomparablement plus beau, et donc on va y consacrer les fonds nécessaires pour que cette attractivité reste au maximum. J'ai rien d'autre à dire.
Oui, bien sûr, vous parlez de 2 années d'autofinancement comme s'il s'agissait du seul investissement prévu sur les 2 ans à venir. Mais je vous rappelle que vous avez communiqué sur un certain nombre d'autres investissements et qui sont d'un montant, eux aussi, assez important.
Et que nous allons faire aussi, oui.
Que vous allez faire sur les 2 ans.
Tout à fait.
Alors, il serait...
sur la durée du mandat.
Il serait quand même souhaitable, monsieur le maire, puis compte tenu des chiffres qui sont évoqués, il serait quand même souhaitable, et nous le souhaitons, c'est avoir un plan pluriannuel d'investissement.
Ah, vous l'avez déjà vu, puisque monsieur Lejean vous l'a présenté.
Sous forme de DOB. Oui, mais ce qu'on voudrait avoir en face, c'est le financement prévu. C'est-à-dire avec éventuellement les emprunts qui vont être nécessaires pour financer l'ensemble des investissements. Et à quelle date ?
Je crois que vous connaissez bien monsieur Lejean. C'est pas du genre à mettre des dépenses sans qu'il ait des recettes en face.
C'est
donc je peux vous dire que tout ça est particulièrement...
Donc il sera relativement facile de nous fournir ces informations.
Bien sûr. Aucun problème. Comme d'habitude, c'est la transparence totale. Dès que vous demandez quelque chose, vous l'avez. Monsieur Lejean.
Juste pour préciser... Le boulevard de la plage, il va rentrer dans une autorisation de programme, c'est-à-dire qu'on va étaler effectivement le financement sur 3 ans, puisqu'on va faire une autorisation de programme. Comme vous avez vu, il y a 2 ans de programme de travaux, voire peut-être 3 en fonction de ce qui va être trouvé. Et donc on a commencé en 2017 et les chiffres devraient être un peu plus bas que ce que je vous ai présenté la première fois. Ils se sont déjà un petit peu affinés entre-temps.
Monsieur Audeau, vous voulez intervenir ?
Monsieur Jean, on peut avoir des subventions sur un projet comme celui-là ?
Oui, des subventions, on en a très peu. C'est oui, très triste. Hein. On a passé, Delphine, elle est là, on a passé une demi-journée à aller à la pêche un petit peu, à tout ce qui était potentiellement possible d'avoir. Et effectivement, ce n'est pas grand-chose. Ça ne sera pas énorme. Un ordre d'idée, je n'ai pas fini, mais aujourd'hui, il faut savoir que si on prend un budget TTC, on va avoir 1,5 million de recettes à peu près sur ce dossier-là, un peu plus d'1 million pour la TVA, donc un peu moins de 500 000 qu'on aura de subventions, et en grattant partout. Et quand je parle de subventions, c'est y compris une aide exceptionnelle du département, puisque je vous rappelle que c'est une départementale, donc en termes d'enrobé, le département participera.
Justement, par rapport au budget, votre prévisionnel donc, nous donne un chiffre TTC de 5 325. Par contre, j'ai la liste de toutes les estimations, de cette estimation hors. Je pense que vous avez connaissance de beaucoup de chiffres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas évalué, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'estimation là ?
Alors, de ce que vous avez vu en option ?
Les options,
ce qui est en haut.
Ouais,
ce qui est en haut. Alors, et on a intégré, effectivement, vous avez des équipements qui vont venir en plus dans le boulevard de la plage, donc entre autres là-haut. Pour l'instant, on est en phase d'estimation de l'ensemble des équipements qui a besoin ou ce qu'on n'a pas besoin. Donc, il y a aujourd'hui des moins et des plus. C'est pour ça que je disais à monsieur... Et je finis, madame Golvan. Il y aura des moins et des plus dedans, il y a des équipements à venir, que ce soit les candélabres, les éclairages et ainsi de suite. On est bien d'accord, donc ce que j'appelle en équipement, qui viendront effectivement en plus, il y a des choses qui viennent en moins. Et vous aurez le détail complet quand il sera arrêté. Ce qui évitera de poser des questions où effectivement les réponses ne vont pas vous satisfaire. Donc on va attendre d'avoir effectivement l'ensemble des éléments.
D'autres questions ou d'autres interventions ? Philippe ?
Moi, j'ai une question, en fait, sur l'aménagement. On a des animations importantes, type l'Euro 4, c'est une question pour M. Maréchal. Et les voileux, quand ils arrivent, ils ont besoin effectivement d'un certain espace pour descendre leur bateau ou leur catamaran, pour ne citer que. Est-ce que c'est des choses dont vous avez tenu compte dans le schéma global ? Pardon ?
La première cale, l'entrée ou l'entrée du bateau reste la première.
D'accord. Donc ça ce serait suffisant. D'accord.
C'est celle qui est actuellement, et puis après il y aura.
Et j'avais une autre question.
Philippe, je voudrais juste répondre pour le RECAT. On n'est plus à 497 bateaux, hein, puisqu'on est péniblement à 150 bateaux par an. Donc la problématique, si tu veux, qu'on a pu avoir dans le temps où il y avait tous les catamarans le long de la plage qui allaient à peu près jusqu'au Crédillonnais, à mon avis, là on les a plus. Et des compétitions à plus de 250 bateaux deviennent compliquées aujourd'hui à avoir. Soit parce que les bateaux deviennent très techniques et donc on n'a plus le nombre qu'on pouvait avoir dans le temps, soit effectivement parce qu'il y a une multitude aussi de compétitions et qu'on ne peut pas avoir tout le monde.
Ouais, ce qu'il ne faudra pas quand même, Pascal, c'est quand les bateaux arrivent, quand l'Eurocat arrive, c'est quand même à souhaiter que cette compétition reste, parce que je pense que c'est un événement important pour
tout à fait.
Il faut quand même que les utilisateurs, les descentes soient facilitées.
Alors, si tu regardes toute la partie Esplanade, va encore faciliter, parce qu'aujourd'hui, on utilise énormément tout le parking qui est là. Donc là, on l'aura en Esplanade et on pourra toujours l'utiliser, puisqu'elle est réservée pour les événements qui se passeront, qu'ils soient nautiques ou autre chose. Derrière, il y a une possibilité de mise à l'eau sur l'Esplanade qui te donne direction directement à la mer. Et le reste, si tu veux, on aura toujours la possibilité de faire ce qui est fait. Si demain on retrouve, admettons, une compétition qui dépasse 400 bateaux, on aura toujours la possibilité de faire ce qui était fait avant sur l'ensemble du boulevard de la plage.
Alors, j'ai pas pu aller aux réunions et je m'en excuse, mais je rejoins Olivier et je sais que le maire en a tenu compte, mais je pense que l'aspect bus, effectivement, sur l'arrivée est important, notamment pour les cars scolaires, quand les enfants vont faire de la voile au yacht club.
Un arrêt de bus, comme M. Maréchal l'a parlé, qui est toujours prévu dans l'entrée, à la fin de l'avenue de l'Atlantique, là où il y a les containers enterrés, là il y a toujours un arrêt de bus qui est prévu à cet endroit-là pour les bus, soit scolaires, soit sur les bus. Voilà.
Et dernier point concernant, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais sur le dernier slide, le parking Churchill, l'extrémité du boulevard, il y a une raison technique en fait qui fait que la voie douce coupe. Coupe la route ou que la route coupe la voie douce, ça aurait pas
alors,
été plus judicieux.
À quel endroit, parce que là,
Est-ce qu'on peut revenir sur la dernière positive, le parking Churchill, l'extrémité du boulevard?
Oui,
moi je trouve dommage effectivement que c'est mon avis, mais que la voie douce effectivement longe pas la mer et que les parkings qui sont que ce soit les parkings qui soient proches du cordon dunaire plutôt qu'effectivement le futur passage piéton. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Oui, tout à fait.
Et notamment la réduction, s'assurer que la vitesse effectivement ne redevienne pas un standard sur le boulevard de la plage, ça me paraît être un point très très important. Et puis sur la séparation de la circulation, peut-être des retours d'expérience de sites similaires sur lesquels vous avez.
Oui.
Parce que bon, au départ, j'étais aussi un petit peu comme l'opposition.
Ouais.
Assez dubitatif sur des flux partagés. Et c'est vrai que chaque fois que je vous ai interrogé sur le sujet, il y avait des bonnes réponses qui m'ont fait changer d'avis. Donc voilà.
Oui, très bien. Peut-être d'abord pour répondre à votre question, monsieur, là, pourquoi on a gardé les stationnements de ce côté-là, c'est pour garder une emprise potentielle d'élargissement de la dune. C'est-à-dire que le jour où ça se fera au détriment de ce stationnement, mais non pas au détriment de la circulation piéton-vélo. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la largeur dont on a besoin pour épaissir. Là, c'est des calculs théoriques qui sont faits par les bureaux d'études, qui sont modélisés. Ils calculent des épaisseurs de dunes, des volumes de sable, si vous voulez, pour répondre à cette problématique de brèche. Et la distance qu'on a ici permet d'avoir ce comblement, et donc on a anticipé, si vous voulez, l'épaississement de la dune ici en gardant plutôt à terme les vélos que les stationnements. Oui, je peux répondre peut-être monsieur à vos questions, les numéros 2, 3, 6 et 7 concernant les chicanes et les dodanes. Donc on a prévu en fait tout au long du boulevard de la plage un dispositif de plateau surélevé, donc qui correspondent à des chicanes à chacune des voies perpendiculaires. c'est-à-dire tous les 100 mètres, de 100 à 200 mètres, parce que les plus éloignés sont environ 200 mètres et les plus proches 100 mètres. Donc, plutôt, on ralentit les véhicules plutôt par un dispositif, je dirais, en altimétrie qu'un dispositif à plat de chicane. Donc, cet élément-là est déjà prévu. La largeur de la chaussée est quand même aussi plus mesurée et ça joue sur la vitesse. Mais les plateaux nous paraissent vraiment très importants pour ralentir les voitures. Alors, sur la question de séparation des piétons et des cycles.
Oui, la voie de circulation est plus étroite. C'est ça qui pose problème lorsque les familles iront chercher les affaires dans les coffres.
Oui, alors.
Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut quand même réfléchir à inverser une partie des parkings et d'en mettre vers la plage et les réserver pour les familles.
Oui.
Ça pose problème. Hein.
J'ai des parkings où les gens se gareraient avec des épis dans l'autre sens avec le coffre à l'arrière. Ce qui existe aussi sur certaines plages où ça a été fait.
Oui.
Alors ça c'est une question intéressante parce que donc d'une part on a prévu des stationnements un peu surdimensionnés en largeur et en profondeur pour donner plus de confort comme je le disais, c'est un premier point. Il y a une autre solution qui consisterait à appliquer la réglementation du code de la route d'une certaine manière mais qui n'est pas la pratique française, c'est d'avoir les stationnements en épi dans l'autre sens et de se garer en marche arrière. Et on l'a fait sur différents projets. En termes de géométrie d'espace, ça ne change, il n'y a pas de changement, si ce n'est les biais sur les massifs là de boue. Mais du coup, c'est un choix un peu stratégique, c'est-à-dire que ça n'est pas conforme à l'habitude que tout le monde a, je pense, autour de la table. Mais du coup, ça permet effectivement d'avoir le coffre qui s'ouvre côté trottoir, les portières aussi qui s'ouvrent pour aller vers le trottoir, et ça donne un confort plus important. Si la municipalité le souhaite, on pourrait envisager ce dispositif qui permettrait de... Donc on se gare en marche arrière, voilà, et on repart en marche avant. Voilà,
je pense que ça mérite à tout le moins d'être étudié, ça, ouais. C'est sûr.
On l'a déjà fait, on l'a pas fait beaucoup, on l'a fait sur deux projets, mais qui sont pas des sites vraiment touristiques et qui sont plutôt des lieux où ce sont des gens qui connaissent qui se garent. Voilà, et ça a plutôt bien marché, mais on l'a pas essayé sur des lieux où il y a des gens qui viennent par exemple pour la première fois et qui ont, je dirais que s'il y a pas mal de places, à partir du moment où il y a des voitures déjà garées, ça pose pas de problème, mais on n'a pas eu de retour d'expérience par rapport à ce fonctionnement-là sur ce type de lieu.
Voilà.
Oui, alors je peux continuer si vous voulez. Donc pour la séparation des piétons et des vélos. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend des lieux, c'est assez fin. Je pense qu'on peut pas comparer à la Hollande et à l'Allemagne. Je connais très bien la Hollande, j'y vais très régulièrement. Si vous êtes à Amsterdam ou à Rotterdam, vous traversez devant un vélo, vous faites klaxonner, c'est le vélo qui est prioritaire. Ici, c'est pas la même règle. Et c'est pas non plus la même quantité de vélos, hein, faut bien l'avouer. Donc, il y a un équilibre à trouver. Nous, on préfère, je dirais, dans un premier temps, c'est la lecture qu'on a des lieux, miser sur un partage de l'espace avec une indication au sol. Parce que la séparation crée des conflits d'usage également. Il ne faut pas croire que la séparation est la solution, parce que pour les piétons qui traversent en perpendiculaire, pour les piétons qui débordent un peu sur les espaces vélos, il y a un risque qui est créé. Parce que les vélos, comme les voitures, s'ils ont leur route bien tracée, ils foncent. Et puis maintenant, il y a des vélos électriques et ça va quand même très vite. Et donc, on préfère partager l'espace, en fait. Et ça nous va. On pense que ça va plutôt dans le sens de l'apaisement de tous les flux. Si toutefois, et en plus il y a un côté plus réversible, c'est-à-dire qu'il est plus facile de renforcer un marquage de séparation que de le gommer. Hein. Et si vous partez sur des matériaux qui sont vraiment très distincts, ça sera comme ça pour tout le temps. Parce que si c'est le même matériau, éventuellement les logos suffisent pas, parce qu'on s'aperçoit dans la partie est, les vélos roulent plus vite, on pourra rajouter des clous. Voyez, refaire des pointillés, renforcer un peu la signalisation. Mais ça nous paraîtrait vraiment dommage, sur les 7 mètres de large, hein, c'est une promenade qui fait presque 7 mètres, de partir sur un principe de séparation, stationnement, voirie, vélo, piéton, parce que on pense que ça peut donner beaucoup plus de qualité au lieu d'avoir un espace partagé. On a un certain nombre de références. dans cette direction-là, mais les lieux sont difficilement comparables, hein, parce que l'ambiance dans le sud de la France, le nord de la France, la Hollande, l'Allemagne, c'est pas tout à fait la même chose. À Carnac, les gens sont peut-être plus civilisés qu'ailleurs, je ne sais pas. Mais donc voilà les raisons de les retours d'expérience qu'on a sur le partage de ces lieux, donc qu'ont un statut juridique. Hein, qui ont un statut juridique du point de vue du code de la route, des voies vertes, qui sont des voies partagées, nous paraît le plus adapté à cet espace. Voilà.
Je crois que vous faites une erreur d'analyse. Si je peux me permettre. Hein. Les personnes qui vont se balader sur le boulevard de la plage, les piétons, sont effectivement des piétons qui vont à la plage, avec leurs enfants, avec leurs parents, etc., et qui se promènent. En revanche, il y a beaucoup de cyclistes qui vont venir de la Trinité, qui traversent Carnac et qui vont faire tout le tour. Et ça, ce sont des cyclistes, des cyclotouristes, hein, qui n'ont rien à fiche des gens qui se baladent pour la promenade. Comment ?
Ils prendront la route des voitures qui est limitée à 30 heures.
Mais en venant de la Trinité ? En venant de la Trinité, ils vont prendre la route. C'est à sens unique, la route. Non, je crois que c'est un problème important. C'est pas négligé, quoi. Bon.
Si vous voulez, justement, si vous avez des cyclotouristes qui passent sur cet espace, est-ce que vous avez envie qu'ils roulent très vite ? C'est la question. Parce que si vous faites une piste cyclable bien marquée, ils vont rouler très vite. Et ça, c'est garanti. Et donc, ça crée des vrais accidents. C'est une réalité. Et le nombre de vélos... Je pense ne pas me tromper, va être beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Parce que dès qu'on réalise ce type d'infrastructure, et j'ai l'expérience de la côte sauvage du Pouliguen, qui était une route départementale qu'on a passée à sens unique, on a supprimé 400 places de parking. 400 places sans remplacement. On a fait une piste cyclable, le lieu est plus fréquenté qu'il l'était. Et les gens viennent en vélo, les gens viennent à pied. Et là, il y aura... J'en suis convaincu, il y aura beaucoup plus de vélos. Et il y a un risque, effectivement, que le vélo roule très vite. Et on pense sincèrement que de faire un espace plutôt partagé, qui pourra un peu se séparer si jamais il y a des problèmes à certaines sections, nous paraît être la stratégie vraiment la plus adaptée.
Je reviens sur le sens... j'insiste, hein, mais... J'arrive pas à comprendre pourquoi cette idée de vouloir à tout prix de mettre toutes les places de parking côté maison et rien du côté plage, je ne comprends pas pourquoi on maintient cette position et pourquoi on ne partage pas. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui pourrait aller côté trottoir et l'autre côté... On le fait bien pour le poste de secours, pourquoi on ne le fait pas pour du poste de secours sur la pointe Churchill, au moins pour faciliter cet accès aux familles.
Monsieur Bonduel, si je peux me permettre de répondre à votre observation, au niveau du poste de secours, la motivation est très particulière. Elle est liée à non pas tant au poste de secours qu'à l'accès PMR et aux emplacements de stationnement PMR associés à l'accès plage PMR. Et donc, pour éviter de faire traverser la route des personnes à mobilité réduite, c'est bien de les stationner côté plage. Donc ça, c'est la motivation première. C'est, j'allais dire, à la limite, la seule. Enfin, je me retourne vers le bureau d'études. Mais... Par contre, le stationnement côté mer de l'ensemble du reste du boulevard de la plage n'est pas forcément intéressant. D'abord parce qu'esthétiquement, l'un des objets principaux des travaux plage, c'est bien de redonner un esthétisme et une ambiance générale. Si on est pour de nouveau mettre des voitures côté plage, ça n'a pas forcément d'intérêt. On casse cet objectif-là.
On a bien conscience des inconvénients qu'il pourrait y avoir à se stationner côté mer pour traverser la voie. Enfin, cela dit, stationner côté mer pour tomber sur une piste cyclable, ce n'est pas très pratique. Mais on compte sur l'apaisement, et c'est très intéressant pour ce type d'espace d'offrir le panorama pour les vélos, pour les automobiles aussi, parce qu'il y a une promenade automobile qui se pratique certainement, et d'avoir tout ce qui est transport dur, si je puis dire, voiture plutôt côté terre, et plus on se rapproche de la mer, plus on est doux. Et il en va je pense, vraiment de la qualité spatiale des lieux. On a fait effectivement une s'entorse à ce principe-là au niveau du poste de secours, parce que c'est un lieu très particulier avec un confort maximal qui est offert aux personnes à mobilité réduite dans cet endroit-là. Mais on pense vraiment sincèrement que ça nous paraît être la solution la plus valorisante pour les lieux.
Le numéro 22 peut intervenir ?
Oui, il a le droit, s'il n'est pas remplaçant.
C'est moi le 22. D'abord, je trouve que c'est une bonne réunion, très constructive, ce qui est plutôt sympa parce que ce n'est pas le cas toujours. Et qu'à partir du moment où on a exclu la tolérance zéro pour les voitures sur la plage, qui était quand même une option qui, moi, m'intéressait, ce projet-là, je le trouve très, très bien. Et je trouve que les remarques de M. Bonduel, à part son habituel show médiatique du début, mais qu'on connaît bien, il nous manquerait s'il ne le faisait pas, ont beaucoup d'intérêt. Et moi, il y a au moins 3 ou 4 points qui m'ont vraiment intéressé. Un, je dirais, je ne vois pas bien comment le bois pourra résister aux assauts du temps, de la mer et tout, parce que moi, je vois chez moi, le bois, eh ben, il ne tient pas. Et ce n'est pas loin, c'est à 50 mètres. Et deuxièmement, sur ce problème du parking des voitures, je pense qu'il a tout à fait raison quand chaque voiture qui arrive, dedans, il y a 2 adultes et 2 gamins, on va dire en moyenne, avec une planche, un petit vélo, des ballons, un parasol ou je ne sais pas quoi. Si le coffre vient sur la route, ce qui est le cas dans le projet, ça va être, un, c'est dangereux parce que les gamins... Tout de suite vont se précipiter sur le coffre. Deux, ça va couper la circulation complètement puisque la rue est très étroite. Et ce fait de dire qu'on inverse le sens des voitures, mais du côté du trottoir, hein, je ne suis pas du tout d'accord avec l'histoire d'en mettre du côté de la mer, mais tout le monde du côté de la terre, et qu'on inverse avec le coffre à l'arrière, alors... C'est bien, je viens déjà de me faire accrocher parce que j'allais le dire. C'est soi-disant difficile de se garer en marche arrière. Bon, c'est pas difficile quand on n'a pas l'habitude.
Je te coupe, Charles. Mais c'est pas, pardon de me...
Pourquoi tu veux me couper ?
Je m'excuse. J'ai pas dit que c'était difficile. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que quand on a une grosse circulation, une grosse affluence, on sait que les voitures sont les unes derrière les autres. J'ai peur que quand on dit, tiens, je vais m'arrêter sur la place, je fais une marche arrière, j'ai peur que ce soit compliqué. Enfin, on voit la circulation en haute saison sur Carnac.
Et c'est pour quand même sortir, tu sors comment dans ton truc? Tu sors bien en marche arrière?
Je pense que c'est plus facile. Pardon pour le jeu de mots, je pense que c'est plus facile de sortir que de rentrer.
Non, bah, ça sera une habitude à prendre. Puis ceux qui ne pourront pas se garer en marche arrière,
c'est quand même avis,
la moindre des choses de savoir faire un créneau. Quand on a son permis et de rentrer là, ben, ils iront se garer ailleurs. Ils iront se garer ailleurs. Donc moi, j'avais le bois, j'avais ça qui m'interpelle. Et en plus du fait que moi, je suis content que M. Bonduel fasse des remarques aussi constructives et aussi longtemps. C'est bien. C'est-à-dire qu'on retrouve l'Olivier Bonduel de la commission, des commissions, et pas l'Olivier Bonduel des réunions du Conseil.
Moi, je suis bien d'accord, Charles. D'ailleurs, il y avait plein de remarques intéressantes, et je pense que, notamment, 3 ou 4 qu'il faut absolument tenir compte. Pour le bois
Oui, je peux apporter une réponse. Donc, ça dépend du bois, de l'essence de bois. Ça, c'est un paramètre important. Nous, les références qu'on a sur ce type d'aménagement, je pense à la commune de la Bernerie, en Ré, qui est en Loire-Atlantique, au sud de la Loire, qui est une station balnéaire très prisée là, des Nantais et autres. On a réalisé des platelages bois. Certains ont 12 ans. La ville en avait réalisé il y a plus de 15 ans, en haute plage. Donc vraiment dans une situation tout à fait comparable. Ils ont fait des essais en chêne qui étaient peu concluants, hein, parce que le chêne est un bois classe 4, il ne se comporte pas très bien dans le temps où il faut des épaisseurs fortes. Et ils sont passés à un bois qui s'appelle l'IPÉ, qui vient d'Amérique du Sud, de Guyane ou du Brésil, qui est issu de forêts, je dirais, gérées... comme il faut, il y a d'ailleurs une certification, et qu'un bois classe 4, naturel, sans traitement, qui est très dense, qui coule d'ailleurs, et qui est parfaitement résistant. Nous, c'est un bois qu'on a utilisé dans beaucoup de projets, dans des contextes divers. et qui se comporte très bien. Voilà. Il y a une question.
En quoi est la terrasse de Monsieur Bietri ? En quoi est la terrasse de Monsieur Bietri ?
Non. Par contre, il y a une question qui est particulièrement importante, c'est la question de l'ossature, du solivage sous le platelage. Donc, je n'ai pas montré les détails techniques, on a commencé à travailler pour savoir comment il est fixé. Et l'IP est un matériau assez cher, cher, parce que c'est un matériau de très bonne qualité. Et donc, il est intéressant de faire tout le solivage avec un bois moins cher, de type pin traité. Et là, il y a une très grande attention à avoir. Que les éléments soient traités dans leur totalité et qu'il n'y ait pas de recoupe sur le chantier. Parce qu'à partir du moment où on recoupe des tasseaux, parce qu'on dit traité à cœur, mais ce n'est pas traité à cœur, c'est traité en surface, à ce moment-là, ils peuvent pourrir très très vite, parce que surtout enfoncé dans le sol, dans le sable, il y a toujours de l'humidité, et donc là, il y a des dégradations possibles qui vont assez vite. Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme réponse à ce propos.
Question.
Oui, pourquoi ce choix de ne pas réaliser le renforcement de la dune à l'endroit de la brèche est ?
Alors, c'est pas un choix de ne pas réaliser pour l'instant. Sommes en discussion avec la DDTM sur les deux brèches. D'abord, il y a quasiment un facteur 10 entre les volumes entrants à la brèche ouest et à la brèche est. Et donc, effectivement, il y a simplement la volonté de se réserver la possibilité de faire les travaux. D'ailleurs, on les fera peut-être à l'issue du boulevard de la plage. Mais aujourd'hui, on est quand même toujours en discussion avec l'État sur un certain nombre de modalités. Et donc, moi, je veux juste être certain que si on réalise des travaux, il y ait le plus possible, parce que j'aurai jamais de garantie, et l'État ne nous l'écrira jamais, qu'on aura une modification substantielle derrière ces zones éventuellement submergées et modification du PPRL. Donc aujourd'hui, la décision n'est pas prise comme sur la brèche ouest, parce que là, c'est des travaux structurels sur la brèche ouest. Hein, il faut vraiment creuser. Et donc, si on ne le fait pas au moment du boulevard de la plage, on ne pourra pas le faire. Le point de la brèche est, c'est qu'on peut très bien le faire même après les travaux, puisque c'est un système qui nous a été proposé par Artelia de réengraissement naturel avec, donc c'est pas, la solution n'est pas écartée.
Par contre, là, en ce qui concerne le montant était plutôt raisonnable.
Le montant était moins important, évidemment, puisqu'il y avait moins de travaux publics à réaliser, et ce qui rendra d'ailleurs la possibilité éventuelle de le faire assez aisé. Monsieur Lejean, vous avez une question ?
Oui, une bêtise surtout. On pourrait revenir au tout début des slides, s'il vous plaît. C'est l'amoureux de Carnac là, qui va dire une petite bêtise. Ça n'a rien à voir avec les chiffres. Alors, dans les photos, oui, un petit peu, alors dans l'autre sens, hein, parce que là, vous êtes au tout début. Allez-y, c'est une photo des routes existantes, enfin, de ce qui existe au jour d'aujourd'hui. D'accord. Je ne sais pas si on va y arriver. Tout à l'heure, je l'ai vu, mais moi, là, je voulais pas vous couper encore un peu plus loin.
C'est un peu lent, pardon.
Ouais. Non, un peu plus loin. Et je vous ai voir. Ah oui, il est un peu embêtant, je reconnais, mais. Oh, drôle, je sais pas. Un peu plus loin. Ah, normalement. J'en ai perdu un de 62, je voudrais pas aller perdre les autres, et je trouve que ça fait partie de l'image de Carnac. Ce sont les... Puisque... Hop, on en a un. Celui qui est à gauche, le petit poteau qui donne le nom du boulevard. Que je trouve qui sont vraiment sympas. Je ne sais pas si vous avez prévu de les garder ou effectivement qui sautent.
C'est tout ça pour ça.
Oui. Eh ben, alors, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais dire une bêtise.
J'adore ces panneaux. Pour tout vous dire, j'en ai même un chez moi. Ouais.
Ah, parce qu'ils m'en ont cassé un qui était Michelin et tout, de 62, mon année de naissance, devant l'office du tourisme, et je trouvais ça vraiment dommage.
Si on conserve pas cela, Pascal, pour service rendu à la commune, on t'en offrira.
J'en offrirai un.
J'ai l'impression que la retraite se passe mal, non ?
C'est toi qui vois ça comme ça, Olivier. Bon.
Okay, s'il n'y a pas d'autres... Chris.
Juste une petite remarque au sujet de l'éclairage. J'ai vu que vous aviez préconisé un éclairage du côté des maisons. Et Donc, en hiver, quand le jour tombe très tôt, est-ce que vous êtes sûr que la partie partage soit bien éclairée suffisamment, de manière à ne pas éviter que, justement, dans la zone partage, des vélos puissent emboutir un piéton qui passerait mal à propos
J'avais posé la même question que toi. Donc, j'imagine qu'on va avoir le droit à la même réponse.
Donc... effectivement, donc l'éclairage a fait quand même beaucoup de progrès aujourd'hui, hein, et dans les portées entre la hauteur des mâts et la profondeur de portée que ça peut avoir, hein, parce que les systèmes LED là c'est vraiment très impressionnant. On peut quasiment diminuer les hauteurs par deux par rapport aux mâts, traditionnels. Donc là, on a des mâts qui sont prévus qui sont de hauteur de 6 mètres. On a fait deux simulations informatiques de niveau d'éclairement. L'une en mettant les mâts tous les 30 mètres, et on était un peu juste, parce qu'on arrivait à 4-5 lux de mémoire sur la promenade, pardon, des aspects techniques. Donc on a fait une autre simulation tous les 26 mètres. Et donc qui donne un éclairage plutôt de niveau 7 lux sur l'ensemble de la promenade, qui est ça vous parle pas trop, mais qui est un éclairage confortable. Alors c'est assez subjectif parce que évidemment il y a un côté subjectif, mais on a un matériau de sol qui est très clair, donc ça qui participe beaucoup quand même à la lecture. Et on va sans doute les rapprocher un petit peu selon les séquences, parce que 26 mètres ça se cale pas entre les propriétés, et donc il s'agit pas de mettre des candélabres devant des belles baies vitrées avec vue sur la mer, je pense qu'on se fera pas des amis. Donc ça sera, comme il y a un certain nombre de parcelles qui font 20 mètres, parfois ils seront 20 mètres, 23 mètres, etc. Bon, c'est pas sensible dans le niveau d'éclairement, mais il y a un calage fin là qui est à faire. Donc pour répondre en conclusion, nous on pense que c'est bien éclairé. Il y a un complément côté mer sur la place en face de l'avenue Milne, où là on a un éclairage, comme on a plus de profondeur si vous voulez que la promenade, et un éclairage également en complément au niveau de chacun des accès. Voilà. Mais on pourra d'ailleurs, par rapport à la puissance de chacune des lanternes, parce que ça existe en 50 watts, 70 watts, etc., enfin, il y a plusieurs, on pourra faire avec le syndicat du Morbihan, Morbihan Énergie, pardon, qui se charge quand même de... Nous, on a fait des propositions qui ont l'air de leur convenir. On pourra faire des essais pour bien vérifier ces aspects-là, parce que les modélisations informatiques, ça reste des modélisations, quoi. Voilà.
Parfait. Bon, mais écoutez, merci pour ces remarques, y compris à l'opposition, parce que je pense qu'il y a effectivement des choses intéressantes. Ce projet est évolutif, hein, il n'est pas gravé dans le granit. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir qu'on réfléchisse. Là, c'est vraiment, je dirais, l'épure, hein, qu'on nous a présenté ce soir, et plutôt l'esprit général dans lequel ce projet va être réalisé. Encore une fois, il ne s'agit pas de bouleverser notre boulevard de la plage, mais plutôt de le toiletter et de l'aménager avec une touche qu'on pourrait qualifier d'impressionniste. Et il y a beaucoup de choses encore sur lesquelles il va falloir travailler. Et donc l'ensemble des commissions travaux, aménagements seront amenés à s'y pencher, et le conseil municipal également, puisque on aura l'occasion, une fois que le projet va avancer, peut-être d'en faire des présentations d'étapes et également des réunions publiques, parce que nous nous sommes engagés à représenter le projet à l'horizon de la fin du printemps au Carnacois, et peut-être même pendant des vacances, pour que les résidents secondaires puissent y participer, afin d'exposer une dernière fois un projet un peu plus affiné, mais qui pourra éventuellement encore être modifié. Donc je vous propose maintenant de passer au vote, et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet du boulevard de la plage, en validant donc les principes sur lesquels nous venons de débattre, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à poursuivre les études de maîtrise d'œuvre, à engager la phase pro et à signer tout document relatif à ce dossier, à savoir les permis d'aménager, les demandes de subvention et les dossiers réglementaires. Je voudrais, avant de passer au vote, remercier le cabinet Phytolab pour son travail d'abord, qui a été... je crois, apprécié par l'ensemble des intervenants, en tout cas ceux qui ont participé à vos travaux. Et puis également remercier l'ensemble de l'équipe municipale, et Paul qui a été le pilote de ce projet, Pascal pour les aspects financiers, et l'ensemble des conseillers municipaux et des adjoints qui ont évidemment beaucoup participé à ce projet. Encore une fois, voilà, je Je ne suis pas un spécialiste de l'urbanisme. J'ai bien conscience qu'aucun projet n'est totalement parfait et que les goûts et les couleurs, c'est évidemment quelque chose d'éminemment respectable. Mais je crois que si tous ensemble, on a envie, parce qu'on y est tous très attachés, d'avoir un très beau boulevard de la plage, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et dans l'esprit dans lequel s'est déroulé le débat aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune raison que nous n'y arrivions pas. Donc merci à tous. On va donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Parfait. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Et donc, j'imagine que le reste du conseil municipal approuve. Je vous remercie. On passe donc au rapport suivant qui concerne, et je vous propose d'accélérer pour ce point, une modification des statuts de la communauté de communes Aurec-Quiberon-Terre-Atlantique qui porte sur deux aspects, l'un lié à la loi NOTRe et l'autre qui relève de la compétence SAGE. Alors, le premier point consiste donc, et ces modifications des statuts a déjà été adoptées à l'unanimité le 29 septembre dernier en conseil communautaire. Le premier point porte donc sur la compétence assainissement et elle consiste à exclure de cette compétence la gestion des eaux pluviales dont la communauté de communes ne s'emparera qu'au 1er janvier 2020 et elle continuera d'exercer la compétence assainissement collectif et assainissement non collectif jusqu'à cette date, mais évidemment les eaux pluviales viendront simplement en rejoindre les compétences. Évidemment, pour des raisons de charge, hein, puisque l'intercommunalité a déjà énormément de travail. Et donc, le président a suggéré que les communes conservent cette compétence de gestion des eaux pluviales jusqu'en 2020, comme la loi le permettait. Pour le deuxième point, il s'agit d'une compétence SAGE, qui donc intègre une disposition du Code de l'environnement qui est relative à l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. Donc ces deux dispositions ont été intégrées donc, au terme du vote du Conseil communautaire le 29 septembre et le Conseil municipal de Carnac doit délibérer sur cette modification des statuts et émettre éventuellement, si vous en décidez ainsi, un avis favorable sur cette modification des statuts que nous approuvons donc par un même vote que je vous demande donc après, peut-être, s'il y a des questions, eh bien d'effectuer. Monsieur de Ripper, une question ?
Oui, concernant le deuxième point, il s'agit de la GEMAPI. La loi prévoit que cette compétence GEMAPI devienne obligatoire, elle dit obligatoire, pour les interco à partir du 1er janvier 2018. Pourquoi est-ce que dans les statuts, on la modifie en compétence facultative ?
Alors ça, il faudrait le demander au président d'ACTA. Hein, et je vous avouerai que moi, j'en ai discuté avec le préfet qui m'a répondu en me disant qu'il y avait un immense flou juridique sur cette question. À titre personnel, dans la mesure où nous avons les travaux au boulevard de la plage, je n'ai pas posé de questions embarrassantes comme celle-là lors du Conseil communautaire parce que cette disposition nous arrange dans la mesure où nous allons pouvoir gérer dans le cadre des travaux du boulevard de la plage, ces travaux sur le renforcement du trait de côte. Maintenant, je ne peux que souscrire à votre remarque. Malheureusement, je ne suis ni juriste ni spécialiste de la gestion des compétences en droit public. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport suivant. Monsieur Chapelle, personnel communal, modification du tableau des effectifs.
Alors, comme régulièrement, nous procédons à un nettoyage, entre guillemets, du tableau des effectifs, qui a été présenté au comité technique le 6 octobre.
Vous n'entendez pas ? Voilà. Et... Comme régulièrement, on procède à un toilettage, entre guillemets, du tableau des effectifs suite aux évaluations, à l'évolution des postes pourvus ou non pourvus. Donc, en comité technique de 6 octobre, on a validé les propositions suivantes. Donc, vous avez le détail. Ici, on ne met pas le détail, mais vous pouvez l'avoir si vous le souhaitez. Par exemple, on supprime 4 postes, 2 emplois d'attaché principal territorial. Il s'agit là d'un emploi non pourvu, ce que M. de Ripper poser la question, donc on va peut-être donner la réponse à tout le monde. Les deux emplois d'attaché principal territorial concernent des postes administratifs non pourvus. Un emploi de rédacteur principal territorial de première classe concerne, c'est une modification, c'est dans le domaine administratif. Un emploi d'adjoint du patrimoine principal territorial de deuxième classe, c'est un emploi non pourvu au musée, donc qui est supprimé. Pour les deux suppressions suivantes, alors les deux emplois d'adjoint administratif principal territorial de deuxième classe, il s'agit d'une modification dans le secteur administratif et un emploi d'adjoint technique territorial, une modification dans les services techniques, bien entendu. Autre suppression, deux emplois d'agent de maîtrise, il s'agit d'une modification des services techniques et les trois emplois suivants également. L'emploi d'ATSEM, c'est une modification du service éducation jeunesse. Et la création ensuite des deux emplois attachés territorial et adjoints du patrimoine territorial. Il s'agit pour le premier d'une modification dans le secteur administratif et pour le deuxième d'une création à la médiathèque. Création de deux emplois d'adjoint administratif principal territorial de première classe. Là, c'est une modification aussi service administratif. Et les sept créations suivantes, il s'agit pour toutes de modifications. Donc service technique pour les trois premiers, enfin pour les six premiers emplois, trois premières lignes. Et pour l'emploi, le dernier, c'est une modification du service éducation jeunesse.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce rapport ? Madame Le Golvan.
Oui, donc il y a une création d'emploi à la médiathèque, c'est ce qui est noté, ce que vous avez dit d'ailleurs, monsieur Chapelle.
Création de postes.
D'accord. Et donc, ils
passeront... C'est pas une création d'emploi. Alors, le détail, je ne sais pas si Philippe peut répondre.
Une transformation d'un contrat actuel en titulaire, tout simplement.
Contrat aidé. Contrat aidé, c'est le droit privé qui n'est pas dans le tableau des effectifs, qui n'est pas encore créé. Voilà.
Donc, vous titularisez. Donc à la médiathèque, actuellement, ils seront à combien ?
Exactement le même nombre.
C'était 5 ou 6 ? C'était 5, j'ai retenu ça. C'est... Donc ils sont toujours 5.
Ils sont...
4 plus stagiaires d'entretien, si vous préférez.
Ils sont 4 stagiaires, 4 titulaires.
4 titulaires et combien de stagiaires, alors ?
Il n'y en a plus. 3
titulaires, si vous voulez, et une personne qui est en contrat de droit privé qui va passer le stage.
D'accord. Ok, merci.
Ok, je vous propose de passer au vote. Est-ce que il y a des abstentions, des votes contre, unanimité, je vous remercie. On passe au dernier rapport, celui du passionnant RIFSEP.
C'est extraordinaire. On en aura le droit à chaque conseil municipal, puisque il s'agit de tout simplement l'État passe des décrets au fur et à mesure pour valider donc la mise en place du régime indemnitaire. Alors plutôt que de faire un décret global dans lequel il définit tous les cadres d'emploi, il avance au goutte à goutte et là donc il est obligé de valider à chaque fois un ou deux cadres d'emploi qui va donc intégrer ce régime obligatoire indemnitaire. Il s'agit aujourd'hui de valider de mettre en œuvre le RIFSEP pour les cadres d'emploi d'adjoint technique territorial et d'agent de maîtrise. Alors on en aura certainement encore pendant, je ne sais pas, peut-être 6 mois, 1 an, voire plus, suivant. On suit tout simplement les décrets.
Celui des cadres n'a pas encore été proposé, si ?
Pardon ?
Celui des cadres, le RIFSEP, les cadres A ?
Alors, pas dans toutes les filières.
D'accord.
La filière technique, non, la filière culturelle non plus.
Et il compte faire ça au fil de l'eau, comme pour... D'accord. Okay.
Pour 2020.
Ok. Est-ce qu'il y a des... Monsieur de Ripper ?
Il s'agit des deux indemnités, c'est-à-dire la fixe et la variable, ou les deux indemnités.
Voilà, c'est-à-dire que ce qui a été appliqué avant pour tous les autres, ouais. Là, on nous autorise, l'État vient de le faire pour eux, donc on peut mettre ces agents-là dedans.
D'accord. Donc les deux indemnités, on est en train de voter sur les deux indemnités.
Exactement.
On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. L'ordre est épuisé. Il y a une question diverse du groupe Ensemble pour l'avenir de Carnac. Monsieur Bonduel.
Donc, monsieur le maire, nous avons appris par voie de presse que Madame Armelle Moreau démissionnait de son poste d'adjointe au tourisme et de présidente du comité de direction de l'Office du tourisme. À l'heure où des décisions importantes doivent être prises afin de préparer la saison prochaine, nous sommes très surpris de ne pas trouver de bordereau au cours de ce conseil municipal concernant l'élection d'un nouvel adjoint de remplacement. Qu'en est-il ? Ah, si vous voulez. Allez-vous laisser ce poste vacant indéfiniment dont une station classée comme Carnac a besoin de cet élément moteur.
Ok, Monsieur Bonduel, d'abord, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'une démission d'une adjoint ou d'un adjointe n'est entérinée que quand le préfet nous l'aura notifié, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le conseil municipal n'aurait pas pu désigner un adjoint ou une adjointe en charge du tourisme. Donc dès que le préfet nous aura notifié, je crois qu'il a reçu la lettre de l'adjointe en question, mais il ne l'a pas encore notifié. Et donc nous ne pouvions pas, à ce stade, effectuer et mettre à l'ordre du jour du conseil municipal cette question. Deuxième point, Madame Armel Moreau n'a pas démissionné du comité de direction de l'Office du tourisme à ce jour. Et donc, cette question est donc sans objet. Par ailleurs, je vous rassure, Madame Moreau étant toujours aujourd'hui officiellement l'adjointe au tourisme et toujours présidente de l'Office du tourisme, elle continue à exercer ses fonctions. Il n'y a aucune vacance du poste et encore moins une vacance de la préparation de la saison prochaine. Et donc, en temps et en heure, ce conseil municipal sera amené à se prononcer sur, effectivement, le mandat ou du moins l'élection soit d'un nouvel adjoint, soit d'une modification des délégations des adjoints actuels. Voilà pour ma réponse. Je vous remercie. Je vous souhaite tous un beau week-end et puis à la prochaine fois. Début décembre, je pense. Sauf...
La secrétaire dit que la séance est levée.